Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis freelance en stratégie et storytelling de marque, et chaque semaine je te retrouve ici pour qu'on explore ensemble les grands sujets de ton activité d'indépendant. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Brice Schwartz à l'antenne, que je remercie d'ailleurs pour son écoute fidèle du podcast depuis le tout début, il y a plus d'un an. Brice et moi avons en commun le fait de nous être lancés dans l'aventure du freelancing pendant nos études, dans un élan d'expérimentation, alors même que tout notre entourage nous prenait en quelque sorte pour des ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est que nous considérons tous les deux que cette phase de test de notre activité à côté de nos études et de nos alternances respectives où on travaillait le soir et le week-end, ça a eu pour nous tous les deux un immense impact sur notre lancement en full-time quelques temps plus tard. Et du coup, dans cet épisode, on revient et on échange ensemble sur cette période-là que Brice considère d'ailleurs comme quelque chose qui lui a donné une longueur d'avance dans sa carrière d'indépendant. Et on a cherché à comprendre véritablement c'est quoi l'impact concret que cette période d'expérimentation pendant nos études a eu sur notre activité jusqu'à aujourd'hui. On a ensuite continué évidemment sur le sujet de la création de contenu. Brice et moi nous retrouvons là-dessus dans le fait de créer du contenu pour une audience. Et on est revenu du coup sur ce sujet du contenu selon une définition très terre-à-terre, je pense la plus terre-à-terre possible, et vous verrez de quoi je parle dans l'épisode. Et à la fin, on aborde également le sujet du positionnement, où Brice nous partage les raisons derrière sa prise de parole parfois tranchante sur la résistance écologique, qui est un sujet qui fait partie intégrante de son positionnement et auquel il tient beaucoup. Et juste avant de démarrer l'épisode, si tu pouvais prendre quelques secondes pour laisser une note au podcast sur Apple Podcast, iTunes, ou alors ton application d'écoute favorite sur Android, ce serait merveilleux de ta part et ça m'aide énormément dans le développement de ce projet.
Sur ce, je te laisse te plonger dans notre échange et on se retrouve à la fin.
Bienvenue sur le podcast, Brice.
Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir, un honneur d'être là après un an
à suivre. Rien que ça.
Rien que ça. Après un an à suivre tous les autres freelances, ça fait plaisir.
Ouais, je suis très content de te recevoir aussi. Tu sais, je me posais la question en préparant l'épisode. Je sais plus exactement les circonstances par lesquelles on s'est rencontrés parce que je sais plus si c'est via LinkedIn, si c'est via Twitter. Tu te souviens, toi, ou pas?
Alors,
au moment où on a commencé à se suivre.
Il me semble que j'écoutais ton podcast. À la base, j'écoutais le podcast d'Alexis. Toi, t'as lancé le tien pas longtemps après. Et après, j'avais fait un événement. Il me semble que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à ton apéro des auditeurs. Ou peut-être avant.
Non, avant. On avait fait en tout cas, la première fois qu'on s'est rencontrés en physique, c'était un meet-up qu'on avait fait avec Surf en Freelance. Mais je sais, je crois qu'on avait déjà pas mal discuté avant ça. On s'est peut-être écrit après l'épisode que j'ai fait sur le podcast d'Alexis, je sais pas.
Bref. C'est possible. Après, il y a tellement de canaux.
Oui. C'est difficile et puis cette année a été complètement distendue, j'ai l'impression. Le temps est bizarre et j'imagine que c'est la même chose pour toi parce que ça va tellement vite dans nos activités. et on va en parler pour toi parce que toi, les choses sont allées assez vite aussi, j'ai l'impression, depuis que tu t'es lancé. Que finalement, moi, j'ai plus trop de notions de qui j'ai rencontré, à quel moment et quand les interactions ont commencé, quoi. Je te propose qu'on rentre directement dedans avec la première question que tu connais. Brice, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu freelance?
Ah là là, tellement de raisons en fait. Moi, je vais pas te répondre la réponse classique. C'était une évidence. je me suis un peu lancé. Par hasard, il y a 3 ans de ça, quand j'étais encore étudiant. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce que c'était le freelancing. Je savais pas exactement que c'était possible de vendre des compétences comme ça, en étant indépendant, en étant sans être un expert en fait, surtout. Donc j'étais étudiant et il me semble que j'ai vu passer une publicité Facebook d'une grande plateforme de freelancing qui travaille beaucoup avec des étudiants à l'époque et qui a un peu changé son positionnement aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, il me restait 2 ans à faire à l'école, on arrivait à l'été, donc j'avais un peu de temps devant moi et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas tenter l'aventure, en fait, ça a l'air sympa, ils ont l'air de vraiment t'accompagner, en fait, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de ressources qui t'aident à devenir freelance, toutes les démarches administratives, parce que être freelance, c'est aussi beaucoup d'administratif, mais une fois que t'as passé les premières étapes, c'est assez simple, donc vraiment, je me suis formé un peu tout seul, j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de ressources là-dessus, et du coup, j'avais toute l'année devant moi pour tester un peu, rien à perdre, puisque j'étais encore, j'avais ce statut d'étudiant qui était à bon filet, on va dire, et je me suis lancé sans avoir l'idée de vraiment faire ça par la suite. Si tu veux, ça fait quand même déjà peut-être, je dirais 5-6 ans que j'ai des sortes d'ambitions entrepreneuriales dans le sens où, tu vois, j'ai fait un DUT technique de commercialisation après le bac, et c'est une formation qui te...
T'étais mon ennemi à l'époque. Moi, j'ai fait GEA.
Je comprends. C'est fini tout ça, cette rivalité. On efface tout ça après quelques années.
Oui, ça n'existe plus.
Et du coup, c'est une formation qui t'aide vraiment qui fait émerger souvent des ambitions entrepreneuriales, parce que tu comprends ce que c'est de créer une entreprise et tu te dis qu'il y a un potentiel incroyable et que c'est une aventure qui vaut le détour. Et du coup, ça s'est un peu matérialisé dans le freelancing, mon désir d'entreprendre. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois un peu, sans rien attendre derrière. J'ai vendu des compétences de marketing, d'études de marché, de rédaction. De rédaction, honnêtement, je savais pas non plus que c'était un métier, en fait. Je me disais, tiens, c'est sympa. Il y a des clients qui ont envie que j'écrive pour eux, ils vont me payer pour ça. Donc, je me suis dit, j'ai toujours été bon dans les matières littéraires. Donc, je vais proposer ça aussi, même si c'était pas, c'est pas quelque chose que j'avais étudié à l'école. On a tous appris à écrire, mais la rédaction web, ça, je l'avais pas appris.
Pas la même chose.
C'est pas exactement pareil. Et ça, je m'en suis vite rendu compte après. Donc, je me suis vraiment formé sur le tas avec mes premiers clients, avec des petites formations sur Udemy, avec pas mal de contenu. Et arrivé là, fin de mes études, donc début 2019, j'étais dans une alternance qui se passait pas hyper bien, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais après, sachant que j'ai travaillé quand même dans pas mal d'entreprises, j'ai fait 4 stages, une alternance, j'ai bossé en CDI pendant 1 an, j'ai fait de l'intérim, j'ai vraiment écumé tous les types de contrats possibles et imaginables. J'ai travaillé en start-up, j'ai travaillé dans des plus grandes entreprises, j'ai fait plein de choses. Et je me suis jamais senti bien, en fait, en entreprise. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise en me disant, tiens, cette personne-là me dit quoi faire. Si je suis pas d'accord, voilà, c'est important. Enfin, j'ai pas forcément ton avis à dire, même si ton manager, ton boss est super sympa et qui te donne de la liberté. Enfin, t'as pas trop droit à l'initiative, surtout quand t'es en alternance, quand t'es en stage, etc. Et du coup, je me suis dit, je suis déjà freelance depuis 2 ans, ça se passe bien. J'avais déjà travaillé avec 50 clients à l'époque, donc je me suis dit, franchement, c'est peut-être le moment de se lancer directement. Quand on est en école de commerce, ça fait un peu les gens te regardent un peu comme un alien, parce que eux, ce qu'ils visent, c'est être chef de produit dans un grand groupe du CAC 40. C'est normal pour eux. C'était vraiment tout ce que je voulais éviter. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit, je verrai ce qui se passe. Au final, je suis toujours pas diplômé. Enfin, à ce moment-là, on est en mi-2019, je me dis, je suis toujours pas diplômé. Au pire, je fais ça jusqu'à ce que je sois diplômé. Et ensuite, si vraiment ça ne fonctionne pas, voilà, peut-être que je trouverai un CDI comme tout le monde.
Mais c'est intéressant, je voulais justement qu'on parle un peu de ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu vécu le même parcours de nos études. Parce que moi aussi, je me suis lancé, du coup, j'étais en M2, donc c'est une année plus tard que toi. Mais j'ai aussi bien vécu ce truc de, j'étais un ovni dans ma classe, dans le sens où du coup moi j'étais à Dauphine et j'ai fait toutes mes 3 dernières années d'études en alternance à Dauphine, et quand je parlais de d'indépendance en cours ou que j'en avais parlé à ma directrice de master, c'était genre super mauvaise idée, va te faire ton réseau et ton expérience en agence, parce que du coup j'étais en alternance en agence, et ma directrice d'agence m'avait dit la même chose, etc. Alors que après y avoir goûté, moi j'étais persuadé que c'était la seule forme qui m'allait pour travailler, quoi. Je me suis dit, je ne peux pas travailler autrement que ça maintenant que j'y ai goûté. Et en faisant mon travail de recherche journalistique, je suis tombé sur un de tes articles. Je crois que c'est le premier article de ton blog d'ailleurs, pas ton premier sur Internet, j'ai trouvé plus vieux sur Medium, mais ton premier sur ton blog, c'était un article dont le titre c'était « Freelance, le job étudiant idéal ».
Ouais.
Et dans cet article, tu dis plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Et une des premières, c'est que justement, en parlant un peu de cette question du pourquoi, tu avais dit dans cet article un moment que, à la toute base, comme tu connaissais pas, tu t'étais rapidement rendu compte qu'en fait, tu pouvais gagner davantage d'argent que d'autres jobs étudiants, entre guillemets, basiques. Et je pense qu'on a eu les mêmes potes qui ont eu les mêmes jobs étudiants, genre McDo ou Quick ou ce genre de trucs.
Moi-même, j'ai bossé en sandwich shop pendant un an. J'ai fait des jobs
étudiants dans mon école. Pareil, voilà.
Exactement.
Et que tu t'étais rendu compte de ça et que du coup, tu goûtais à quelque chose dont on ne parle pas pendant nos études, quoi. Et tu disais aussi dans cet article, et j'aimerais bien qu'on parle de ça, du coup, c'est que, au final, quasi tout étudiant de ton DUT, par exemple, ou d'école de commerce, on a des vraies compétences qu'on apprend, qu'on pourrait commencer à vendre, et que c'était juste tout à fait, ça faisait sens, en fait, de le faire. Est-ce que tu partages encore ce point de vue-là, quelques années plus tard?
Bah, complètement, plus que jamais, en fait, parce que tu te rends compte que, le truc avec les étudiants, c'est pas qu'ils ont pas de compétences, c'est que on leur apprend que les compétences, c'est fait pour plus tard, en fait. C'est fait pour quand tu seras dans une vraie boîte avec un vrai job. Pour l'instant, tes compétences, voilà, c'est pas du tout actionnable. Enfin, tu peux rien en faire aujourd'hui. Et si tu veux un job étudiant, bah là, tu vas faire un truc, que tout le monde connaît. Tu vas livrer des repas, tu vas servir à manger, il y a d'autres choses un peu plus originales, mais qui restent pas forcément hyper glam, hyper intéressantes, et ni très bien payées d'ailleurs. Alors que du coup, ça dépend des formations après. Je pense que quand on a fait un DUT, quand on a fait une formation assez quand même relativement professionnalisante, on a des vraies compétences qui sont pas seulement théoriques et qui sont aussi pratiques, qui peuvent vraiment servir à des clients, à des entreprises. Après, c'est sûr que si t'as fait, si tu fais un master en philosophie, je pense que c'est un peu plus compliqué de vendre ces compétences-là. Quoique, tu peux très bien, donner des.
Je pense que ça dépend peut-être des clients aussi, tu vois.
Bah oui, exactement. Enfin, ça dépend de ce que tu fais. T'as toujours des. Enfin, tu peux toujours trouver, en tout cas, des potentiels clients. Peut-être que ta philosophie, tu peux l'enseigner, tu peux en faire des ateliers, tu peux développer. Tu peux. Peut-être trouver un concept autour de la philosophie pour faire un club, club de personnes qui sont intéressées par la philosophie de Kant, tu vois. Enfin, il y a plein de possibilités.
Ouais, carrément. C'est clair. Mais je pense que, tu vois, cet état d'esprit-là de se dire, ce que tu dis là, j'ai des compétences même dans un domaine, entre guillemets, peu commun comme la philosophie. Cet état d'esprit que je pense on développe en devenant freelance, en étant confronté à, OK, il faut que je gagne de l'argent, faut que je puisse envoyer des factures, faut que je fasse tomber des sous sur mon compte pour payer mon loyer et vivre tout simplement. Je pense que l'état d'esprit que tu développes par rapport à ça, c'est que tu te rends compte que toute compétence, toute expérience et tout ce que tu engranges dans ta vie, il y a potentiellement moyen d'en faire une activité, quoi. Et je pense que cet état d'esprit-là, il est hyper important et que c'est pas ce qu'on t'enseigne ni à l'école, ni potentiellement quand t'es salarié.
Bah complètement,
T'en penses quoi?
complètement. D'ailleurs, outre le fait, enfin le truc le plus évident que on parle pas de du freelancing, de l'indépendance à l'école, même en école de commerce, on parle un peu de start-up. Et encore, c'est assez, voilà, c'est vraiment, tu es
C'est
vraiment
flou quand même, ouais.
un outsider si tu veux faire une start-up. Voilà, c'est tu es un aventurier. Alors le freelancing, n'en parlons même pas, parce que je pense qu'en fait, étant donné que c'est peut-être une minorité de personnes qui sont freelance aujourd'hui. Toi, je sais que tu as développé des théories là-dessus, que voilà, c'est peut-être que ça va changer à court terme. Enfin, en tout cas, peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme. On verra bien. Mais voilà, enfin, c'est possible qu'il y a certains profs qui sont même pas au courant qu'on peut faire certains, voilà, on peut exercer tel métier, on peut vendre telle compétence en
Grave.
freelance. Après, on n'a pas tous le même niveau d'information là-dessus. Et c'est pas forcément
Ouais.
une volonté, tu vois, de pas former les étudiants à la, comment
Non,
dire,
oui, c'est clair.
à l'entrepreneuriat pur et dur.
On faut pas leur en parler, on leur cache.
Nous
Toute
sachons, nous
théorie
sachons.
du complot.
Exactement. Donc ouais, je pense que par contre, à l'inverse, sensibiliser un peu plus là-dessus, ça pourrait être intéressant. T'imagines si après ton bac, avant le bac, je pense que c'est compliqué, mais après le bac, on te disait, à partir de maintenant, tu vas apprendre des choses, et si tu as l'impression que ça peut servir à d'autres personnes, bah pourquoi pas directement te lancer.
Aller les vendre, ouais.
Voilà, sans forcément arrêter tes études après un an d'études supérieures. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais
Ouais.
si t'as l'impression que ça peut vraiment aider les autres, ben tente un truc, quoi.
Bah, je sais pas si tu avais creusé un peu le... Bon, on va partir sur une divergente et je vais essayer de le garder court, mais tu t'étais plongé un peu dans le projet d'école que je porte là avec le collectif, les Zecs Digital.
Ouais, j'ai suivi ça, ouais.
Parce que du coup, c'est exactement ça au final. Enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, comme ce qu'on disait avant, les étudiants développent des compétences au fur et à mesure. Et pour nous, devenir freelance, et c'est le sujet dont je voulais parler avec toi, c'est une école à part entière. Ça te forme à fond. Et il y a une phrase que toi, t'avais dit dans un article qui est, se lancer en freelance pendant ses études, ça donne une longueur d'avance. Et je partage à fond ton point de vue là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, dans l'école qu'on essaie de développer, qui est une école post-bac, à partir de la deuxième année, ils sont obligés de devenir free et on les accompagne à trouver des clients et c'est une partie de leurs études et ils sont protégés par des indépendants qu'ils font depuis le début et je pense que c'est une manière de se former de dingue, quoi. Et je veux revenir sur cette phrase du coup parce que encore une fois, je crois que c'était dans ce premier article où tu disais ça et j'aimerais savoir parce que toi, depuis que tu t'es lancé, depuis que t'es passé plein temps en freelance, j'ai l'impression que les choses sont allées très vite pour toi. Et j'aimerais savoir si tu penses que cette période où tu étais free pendant tes études, ça t'a donné cette longueur d'avance et ça t'a permis d'aller encore plus vite après.
Alors surtout sur l'aspect purement business, je pense. Le fait que j'avais déjà travaillé avec, je te disais, environ 50 clients au moment où je me suis lancé à temps plein, le fait que du coup j'avais déjà travaillé des heures et des heures et des heures, bon, peut-être pas les fameuses 10 000 heures dont on parle parfois, mais en tout cas beaucoup d'heures sur les compétences de content marketing, sur les sujets de copywriting, de stratégie de contenu, même si j'étais quand même beaucoup beaucoup dans la rédaction auparavant. Bah, ça m'a donné confiance en moi aussi et ça m'a permis de me dire, tiens, maintenant enfin je vais créer du contenu. J'ai lancé mon site web un peu avant et mon blog un peu avant de me lancer vraiment à temps plein en freelance. C'était en mars 2019. Je me suis dit, je me sens légitime en fait à commencer à parler des sujets que voilà sur lesquels je travaille. Peut-être que si tu te lances aujourd'hui en freelance et que t'as encore jamais travaillé avec des clients, tu risques d'avoir un énorme syndrome de l'imposteur sur parler en même temps de ces sujets-là en te positionnant un peu comme un expert, pardon. Je pense que le fait d'avoir travaillé avant, ça m'a permis d'être plus à l'aise pour me dire, tiens, enfin, si quelqu'un regarde, tiens, qui est cette personne pour me parler de ce sujet-là et pour essayer de m'apprendre des choses, c'est pas quelqu'un qui vient de se lancer, même si tu peux être très bon en te lançant, mais bon, il y a quand même la notion d'expérience qui aide. Voilà, surtout sur cet aspect du coup de prendre de l'avance sur mes clients et sur mon activité, quoi.
Ouais, c'est clair, parce qu'au final, quand tu te lances à plein temps, tu as plus ou moins déjà 2 ans d'expérience d'être free, ce qui fait que effectivement, c'est pas le grand saut dans le vide dont certains parlent quand ils sortent d'un job salarié ou qu'ils sortent d'études et qu'ils ont jamais fait de freelancing pendant leurs études. Et je pense qu'on le vit complètement différent. Moi, par exemple, on le vit différemment, pardon. Je pense que j'ai vécu un peu la même chose que toi. Mon année de freelancing pendant mes études, c'était un peu un bac à sable où j'ai expérimenté plein de choses et ça donne la confiance. Et je te rejoins sur ce sujet-là, que c'est un vrai sujet de confiance en soi, en fait. Parce que tu sais déjà que ça fonctionne, en fait. T'as pas la peur que ça va pas marcher.
C'est ça, tu sais que t'as déjà un peu fait tes preuves. Après, c'est sûr que passer de freelance comme job étudiant à freelance comme 100% freelance, je suis un vrai freelance, c'est mon activité principale. Il y a quand même cette peur un peu de se dire, jusqu'à présent, ça allait, mais je travaillais, pour donner une estimation, je travaillais peut-être 10 heures par semaine. Je me faisais peut-être, le maximum que j'ai pu me faire, c'est peut-être un SMIC par mois, grâce au freelancing en étant étudiant. Donc là, je me disais, il va falloir que je gagne quand même un peu plus et que je travaille également un peu plus et que je trouve un peu plus de clients. Donc, cette phase-là. Ouais. Au final, ça s'est bien passé parce que j'ai géré la transition. Bon, je t'avoue que le dernier mois d'alternance, c'était un peu compliqué parce que du coup, je bossais à fond avec mes nouveaux clients. Je me rendais super visible sur LinkedIn, sur les réseaux, sur Internet en général. Et il fallait que je finisse mon alternance proprement. Et puis voilà, c'est pour être un peu plus dans le détail. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose que je dis souvent, mais si j'ai réussi à quitter mon alternance plus tôt, c'est aussi parce que j'étais déjà entrepreneur en fait, au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'avais déjà une entreprise et du coup j'ai pu négocier avec mon école de partir plus tôt avec les motifs de création d'entreprise. Donc ça m'a permis de pas avoir besoin de chercher un CDI à la place. Donc franchement, c'était une opportunité assez ouf. Donc je me suis dit, toutes les étoiles s'alignent, toutes les planètes s'alignent plutôt. Donc autant tenter le truc, je me lance un peu, je me lance pas sans filer puisque j'avais déjà l'expérience, mais je tente le truc. Si ça marche, je poursuis là-dessus, j'évolue ensuite parce que je te disais, je me considère avant tout comme un entrepreneur. Aujourd'hui, je suis freelance, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc forcément, dans les années à venir, dans les mois à venir, j'ai pas vocation à rester freelance ou pas seulement uniquement freelance, mais voilà, c'était vraiment le bon moment, je pense.
C'est quoi la différenciation que tu fais du coup entre freelance et entrepreneur, comme t'en parles là?
Je sais que c'est un grand débat avec les autres freelances. Moi, je me positionne plutôt pour dire qu'en fait, tu peux être un entrepreneur quand t'es freelance si ton activité dépasse la simple prestation de service. J'ai une compétence, je la vends pour un certain montant à un certain client et c'est tout. Okay. Vraiment, c'est tout ce que je fais. Là, je pense que tu es freelance et tu es prestataire de service. Tu n'es pas vraiment entrepreneur. Par contre, si tu vas un peu au-delà, que tu crées ton propre contenu, que tu réfléchis à d'autres idées, c'est aussi un état d'esprit être entrepreneur. Après, techniquement, y a des personnes qui vont te dire si tu n'as pas une SASU ou une SAS ou une EURL ou même, certains me disent que si tu as une entreprise individuelle et que tu es tout seul, tu n'es pas un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il a des collaborateurs, c'est scalable ce qu'il fait, etc. Je pense que si ce que tu fais, ça va au-delà du simple freelancing et que du coup, tu as des side projects à côté qui sont plus ou moins liés à ton activité freelance, je pense que tu peux être un entrepreneur en étant freelance. Mais après, je pense que c'est avant tout une question de point de vue.
C'est clair.
Mon propre avis a évolué sur le sujet, donc la preuve que c'est pas, y a pas de vérité.
Ouais. Je pense que effectivement, il y a plusieurs manières de prendre la question. Il y a la question du statut qui est la manière classique de le prendre et de dire micro-entrepreneur, t'es pas entrepreneur. Ceci étant dit, c'est pas parce que t'es micro-entrepreneur que tu fais que du service. Mes parents, par exemple, à l'époque, ils avaient une micro-entreprise. Et ce qu'ils faisaient, c'était de la location saisonnière avec une maison qu'ils louaient l'été, quoi.
Okay.
Et au final, du coup, parce que quand j'étais gamin, je m'en rendais pas compte de ça, mais en fait, ils avaient une micro-entreprise aussi, et du coup, ils avaient les mêmes problématiques. Du coup, il y a cette manière-là. Moi, je vois aussi la manière, comme t'en parles, de qu'est-ce que concrètement tu fais. Est-ce que tu fais de la prestation de services individuels comme ce qu'on appelle classiquement le freelancing ou plutôt du produit ou plutôt, du contenu web, etc. Et il y a cette différenciation là, mais je pense que pour moi c'est vraiment dans l'état d'esprit en fait que ça se trouve la différence. C'est Je sais pas si tu avais vu participer, je crois, à un de ces webinaires à l'époque quand on les faisait avec Marie, mais moi je parlais de l'indifférence entre le freelance intérimaire et le freelance entrepreneur. Et c'est vraiment dans est-ce que je construis un business pour aller chercher une typologie de clients en construisant des choses pour les attirer, ce qui rentre dans la réflexion que tu as toi de content marketing, etc. Ou est-ce que je suis freelance mais je fais que répondre à des annonces ou attendre qu'un client vienne me chercher et entre guillemets boucher les trous, c'est-à-dire répondre à des besoins quand on me les pose et dire ok j'ai des compétences, je le fais. Et je pense que c'est pour moi c'est là où je fais la différence, c'est-à-dire que et c'est là où je vois aussi la précarité du freelancing, s'il doit avoir une précarité, c'est quand on est simplement le bras armé et l'extension d'un client qui ne sait pas faire une tâche et qui vient chercher quelqu'un qui sait faire la tâche et ne lui accorde aucune autre légitimité que le fait de faire cette tâche. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de freelances qui le vivent mal d'ailleurs, parce qu'ils peuvent pas avoir la prestation de conseil, peuvent pas avoir la posture de j'accompagne la boîte, mais c'est juste on vient me chercher pour faire une tâche et quand j'ai fini la tâche, bye quoi.
Exact.
Après, je pense que c'est là où il y a la différence.
Exact. Mais il y a aussi le fait, je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble, c'est est-ce que tu fais, par exemple, moi, est-ce que je fais du content marketing ou est-ce que je fais du briefart, tu vois, après ça dépend aussi du client. Est-ce qu'il va chercher quelqu'un qui va vraiment devenir un vrai caméléon, qui va complètement s'adapter à ce que lui cherche et qui va totalement s'effacer en fait sous sa création, on va dire. Ou est-ce qu'il cherche quelqu'un?
Cherche à toi la personne.
Quoi. Voilà, est-ce qu'il cherche quelqu'un qui a un style, enfin, est-ce qu'il m'a découvert moi et qu'il a envie de travailler avec moi et pas seulement avec un content marketer, avec un rédacteur. C'est une adéquation aussi entre ce que cherche le client et le freelance quoi.
Ouais, une rencontre. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup ça pose plein de réflexions sur autre chose, genre est-ce que je me vends sous un nom de marque ou sous mon propre nom. Tu vois ça me faisait penser, je sais plus pourquoi mais j'y pensais hier. Je pensais à tu sais les gens qui font des sites web genre community manager tour par exemple .com. Et qui font des trucs comme ça. Je crois qu'à l'époque il y avait une réflexion SEO de référencement naturel derrière, mais tu vois je trouve ça tellement impersonnel de faire ça et moi je me projette pas du tout dans cette réflexion, mais du coup c'est intéressant parce qu'il y a d'autres gens pour qui ça parle exactement et c'est ça qu'ils ont besoin, donc c'est vrai qu'au final tout ça c'est juste comme je le disais dans la fin du dernier podcast qui est sorti ce matin, c'est un point de rencontre entre un être humain qui a un besoin et un être humain qui peut répondre à ce besoin et on avance ensemble quoi.
Bah c'est ça. Après ça c'est encore différent ce que tu dis je pense, parce que tu vois parfois du coup c'est des marques mais qui ont un nom très très SEO justement. Par exemple dans la rédaction il y a Lucie Rondelet qui est un peu une référence dans le contenu. Elle son site c'est je crois que ça s'appelle formation rédaction web, donc c'est totalement impersonnel.
Ouais.
Mais au niveau SEO il y a pas mieux. Clairement elle vend des formations en rédaction web, donc c'est difficile d'être plus exhaustif. Après tu vois c'est vrai que c'est une vraie question, la question du est-ce que tu te vends sous une marque ou sous ton propre nom. Moi je suis parti du principe que je commence sous mon propre nom, c'est logique, personne ne me connaissait, enfin toujours pas grand monde qui me connaît hein, mais bon j'ai quand même réussi à générer une petite audience quand même. Mais commencer sous mon propre nom, personal branding, marque personnelle, tout ça, et ensuite pour les autres projets que je sortirais, sortir des marques ou sortir une marque quand je créerai une entreprise, une agence, quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est important d'avoir au moins une marque personnelle et ensuite d'itérer à côté. Il y a beaucoup de personnes.
J'ai la même stratégie que toi.
Ça se voit.
J'ai la même stratégie que toi. ma réflexion de base, c'est s'il y a une chose qui ne changera pas à moins qu'on vive quelque chose de très difficile et qu'on ait envie de changer ce nom. Il n'y a pas grand chose qui nous poussera à changer notre nom, quoi. Et c'est le truc dont tu es propriétaire pour toute ta vie. Donc, autant le conserver et faire en sorte que ça devienne quelque chose de fort.
Exact.
On a bien divagué, c'est cool, hein. On a sorti un peu du cadre. Bah ouais, hein, comme ça. Il y avait un autre truc que je voulais revenir sur quelque chose qui, je pense, a caractérisé le fait que tu es allé aussi vite et que le freelancing pendant tes études t'a donné aussi beaucoup d'avance sur ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense qu'on en a déjà parlé encore, c'est cette capacité à apprendre à apprendre. Mmh. Et tu t'en parles aussi dans un de tes articles où tu dis qu'en gros, le début de ton activité, c'était t'as bouffé des podcasts, t'as bouffé de la chaîne YouTube, t'as bouffé de l'article. Tu t'es poussé à aller apprendre plein de trucs sur le web pour ça. Et j'aimerais savoir à quel point est-ce que, selon toi, cette capacité d'apprendre à apprendre et à aller creuser et à utiliser Google vraiment comme un outil de formation, ça a eu un impact sur le développement de ton activité à l'époque et aujourd'hui aussi?
Bah c'est marrant parce que c'est encore une fois c'est un truc qui a pas été forcé. Je me suis jamais dit il faut que je me mette à apprendre à apprendre. Il faut que je me forme. Il faut que voilà. Si tu veux, ça fait pour faire revenir un peu en arrière. J'ai commencé à vraiment consommer beaucoup de contenu. Il y a 8-9 ans, je terminais le lycée en fait. J'étais en première, en terminale. Là, j'ai découvert les articles, les articles de blog. Je connaissais pas du tout. Bon, évidemment, j'avais un Skyblog à l'époque, mais on va pas revenir là-dessus. Et j'imagine bien que tu n'as pas trouvé.
J'en ai eu 3, je crois. Non, je l'ai pas trouvé. Mais j'ai pas eu l'idée de chercher même.
Mais du coup, voilà, parler des vrais articles de blog. À l'époque, c'était des sujets, tu vois, de développement personnel, de séduction. Voilà, il y a 10 ans, ça marchait bien. C'était hyper à la mode, ces trucs-là. Et après, ça m'a amené un peu sur des sujets de psychologie. Bon, pas forcément de psychologie très poussée. Aujourd'hui, on appelle un peu ça de la psychologie de comptoir. Mais, tu vois, apprendre à être plus sociable, apprendre à être, tu vois, à mieux apprécier tes relations sociales, des choses comme ça. Donc ta psychologie, de la psychologie sociale, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment, il y avait pas mal d'articles qui parlaient de ça sur différents sites, plus ou moins sérieux. Et du coup, après, quelques années après, c'était pas mal YouTube. Ça, c'était il y a 4-5 ans, je dirais. J'ai vraiment commencé à bouffer de la vidéo matin, midi, soir. Surtout, le pire, en fait, c'était... Enfin, le pire ou le meilleur, c'est peut-être ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais quand j'étais en échange, en Erasmus, j'étais en Angleterre pendant un an. Donc, c'était il y a 4 ans. Et là, j'avais beaucoup de temps. Hein. Clairement, quand t'as 10-12 heures de cours par semaine, que t'es en Angleterre, donc le système d'éducation, il est un peu différent. Les partiels, en fait, c'est des essais en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des sortes d'énormes dissertations. Et t'as pas besoin d'aller en cours, en fait, pour faire ces dissertations-là. T'as juste besoin de savoir faire une dissertation, de savoir noter tes références avec la méthodologie IPA. Enfin, voilà, des trucs comme ça, faire tes recherches. Donc au final, il y avait pas beaucoup de cours et j'allais pas à tous. Par contre, je passais 6 heures sur YouTube tous les jours. C'est là que j'ai découvert Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, un peu ceux qui aujourd'hui ont un succès fou, tout le monde les connaît. Alors qu'il y a 4-5 ans, Gary Vaynerchuk, Gary V, il n'était pas encore hyper connu. Il commençait à créer du contenu, il faisait des...
C'était avant son daily vlog même, qui je pense a été l'accélérateur. C'était il y a 5 ans, je crois, le daily vlog.
Ouais, effectivement. Moi, je sais que c'est quand je le suivais à fond qu'il a lancé le Daily V, mais vraiment tous les jours, quoi. C'est quand je le suivais. Mais après, bon, j'ai arrêté au bout d'un an parce que, enfin, il y a des gens comme ça, quand tu les suis trop, à un moment, ils répètent un peu toujours la même chose. Et ils évoluent pas aussi vite que toi, tu consommes leur contenu. Donc, à un moment, je regardais ses conférences. Ça s'applique pour plein d'autres gens aussi que j'ai suivi à ce moment-là, tu vois, des gens du marketing, des grands entrepreneurs, etc. À un moment, t'as fait le tour de la personne, ça sert plus à grand chose d'aller encore creuser parce que tu vas pas apprendre de nouveaux trucs. T'as eu ta dose d'inspiration, on peut appeler ça comme ça. Mais du coup, voilà, je consommais énormément de vidéos.
T'es dans une période à ce moment-là aussi quand, tu vois, moi aussi, je l'ai vécu au début quand tu commences à découvrir tous ces milieux-là et à être à fond dans la consommation de ces contenus, t'as une courbe de progression ultra rapide. Dans le sens où tous les jours, tu découvres des nouveaux trucs, t'approfondis ta réflexion, etc. Et je pense qu'à un moment, t'arrives effectivement à un palier où les notions, tu ressens plus la progression aussi rapide. Mm-hmm. Et là, il faut aller justement à la place d'engranger genre 6 heures de YouTube par jour, plutôt aller creuser les réflexions plus loin sur celles que t'as, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est ça le truc qu'on peut ressentir à un moment en mode, bon, bah, voilà, il revient sur les mêmes trucs. Mais c'est le moment où justement il faut aller potentiellement creuser encore plus loin ce truc où dans une vidéo, bien sûr, c'est en hyper surface. Mais il y a toujours, tu vois, par exemple, tu parles de Tony Robbins, moi c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Et j'ai tellement écouté plusieurs fois même des contenus de lui que j'ai dû lui écouter genre 10 fois. Et à chaque fois, ça creuse plus loin dans les choses et je trouve ça intéressant d'aller creuser, une fois que t'as atteint ce palier de « ok, maintenant, j'ai vu tellement de trucs qu'il faut aller plus deep, quoi. » Mais c'est intéressant parce que je sais pas si t'as ressenti cette courbe aussi de... Je sais pas si c'est de ça dont tu parlais là, mais...
Bah, il y a de ça aussi. Après, sur YouTube, tu peux aussi avoir accès à des contenus vraiment, tu vois, des vidéos de 2-3 heures... tu vois, des conférences, des sortes de limite des cours en ligne, quoi. C'est pas vraiment des MOOC, c'est pas des cours en ligne, mais c'est la valeur, elle est énorme. Et du coup, quand je disais à mes potes que je passais que je passais 6 heures par jour sur YouTube. Ils me disaient, mais tu regardes quoi? Tu regardes Cyprien? Enfin, pour eux, YouTube, c'était une plateforme de divertissement, en fait. Alors que quand tu creuses, enfin, t'as vraiment des trucs, tu peux t'auto-former, tu peux, enfin, sur tous les sujets que tu veux, tu peux devenir, bon, il y a des limites, je pense. Tu vas pas devenir médecin en te formant sur YouTube, on est d'accord. Mais, en tout cas, dans le freelancing, tu vois, que ce soit du marketing, que ce soit de la rédaction, que ce soit peut-être même du dev. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui font du dev assez poussé sur YouTube. Enfin, il y a plein de sujets à explorer là-dessus. Et le format vidéo, il est parfait parce que, enfin, si t'es sensible à ce format-là, je sais qu'il y a des personnes qui se sentent pas trop bien en regardant trop de vidéos parce qu'ils sont trop stimulés, en fait. Mais le format vidéo, il est bien pour développer une pensée parce que t'as une vraie personne en face de toi, que t'as l'audio, t'as la vidéo, t'as l'image, tu peux montrer des choses, tu peux, voilà, t'as vraiment tout ça. Donc ouais, YouTube, c'était vraiment une étape de plus dans ma consommation de contenu. Donc je continue à lire des articles quand c'était intéressant. Là, à ce moment-là, je commençais vraiment à être à fond dans l'entrepreneuriat, pur et dur. J'ai, enfin, tout ce qui était startup, ça commençait à aussi avoir pas mal de d'engouement. Mais du coup, vraiment tous les grands entrepreneurs français, américains, j'ai un peu fait le tour aussi. Et après, pas longtemps après, peut-être un an après, c'était les podcasts. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, que j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup de podcasts. Avant, c'était assez, personne n'écoutait des podcasts, j'ai l'impression, il y a 5 ans. Il y a 5-10 ans, c'était vraiment.
Ouais, c'était à l'ancienne.
Voilà, c'était vraiment la niche de contenu, quoi. Aujourd'hui, j'ai vu une stat l'autre fois, c'est que les podcasts touchent que moins de 10% des Français, quand même. Et c'est surtout des CSP+, surtout féminins, et surtout dans les grandes villes. Donc c'est encore assez niche, quoi. Mais du coup, là, j'ai
La vague commence, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a un moment où l'offre va augmenter, c'est-à-dire je vois des podcasts qui se lancent quasi tous les jours et j'ai l'impression que c'est le truc de tous les freelances maintenant de lancer son podcast sur son sujet. Et du coup, je pense qu'avec l'augmentation de l'offre, forcément la demande va suivre parce qu'il y aura de plus en plus de sujets traités, ce sera de plus en plus discuté médiatiquement, etc. Et ça va entraîner le truc. Yes. Et du coup, je suis curieux dans toute cette consommation de contenu, qu'est-ce qui fait le switch à un moment dans ton esprit où tu te dis ok, maintenant je passe de consommateur de contenu, même si je sais que tu consommes encore du contenu aujourd'hui, et je me mets à en créer moi-même, et je me mets à publier des choses, et je me mets à prendre la parole. C'est quoi le switch qui s'est passé dans ta tête?
Bah, ce switch-là, il a mis des années à s'activer, en fait. C'est ça qui est...
Ouais, bah, c'est pour ça. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit « Ok, c'est maintenant, go ?»
Ben justement, en fait, j'ai tellement pensé pendant des années. Moi, j'ai failli lancer une chaîne YouTube il y a 7-8 ans. Bon, j'aurais pas parlé de la même chose, hein. J'aurais plus parlé de dev perso et de comment réaliser ses rêves, des trucs si tu crois en toi, voilà, des trucs comme ça. Mais j'avais envie de créer une chaîne YouTube, j'avais envie d'écrire depuis super longtemps. Et au final, je créais du contenu plus ou moins sur les réseaux sociaux, en fait, sur mon compte Facebook. Voilà, je partageais des trucs. Bon, c'était pas toujours hyper pertinent. J'avais souvent des petits coups de gueule sur Facebook, des choses comme ça, qui au final m'apportaient pas grand chose de positif, à part des gens qui étaient pas d'accord. après, sur Twitter aussi un peu, LinkedIn, j'ai vraiment commencé à l'utiliser de façon, un peu maîtriser la bête, on va dire, il y a peut-être 2 ans. Avant ça, c'était une CV tech en ligne, tu vois, j'avais mon CV, parfois je publiais un truc, mais ça, zéro engagement.
Je suis remonté à ton premier post LinkedIn. Ton tout premier post LinkedIn, je suis allé chercher.
Ah ouais, mais ça...
C'était il y a 3 ans. Et c'était une citation de Brandon Burchard.
C'était quoi?
Et t'avais écrit « This is success » et c'était les 5 règles du succès de Brandon Burchard.
Je m'en souviens pas du tout.
J'ai beaucoup scrollé pour remonter quand même. Hein. Je me suis fait chier.
Bah, je publie tous les jours sur LinkedIn depuis presque un an, donc
je sais.
Il y a du post. Hein. Surtout que LinkedIn, quand tu scrolles un peu, trucs, ça commence à bugger. Mais ouais, franchement...
j'ai mis longtemps.
c'est toute une journée dessus. donc ouais, j'ai commencé là-dessus. Et après, le jour où j'ai vraiment créé du contenu, au sens où on l'entend plus communément, c'est quand j'ai créé mon premier article Medium, il me semble, il y a 2 ans.
Que j'ai aussi trouvé.
Ah, ça,
alors
il
attends,
est assez j'ai...
il y a oui, mais
j'en ai parlé il y a pas très longtemps.
Alors attends, c'est vrai.
Et puis où d'ailleurs?
Je l'avais dans mes notes, mais je le retrouve plus. Mais oui, je l'ai retrouvé. Je crois que j'ai une question dessus peut-être après.
Ah, c'était vraiment à l'arrache, quoi. C'était justement, tu vois, tu parlais du déclic. C'était l'été 2018, je crois. J'étais assez.
2017, hein. Tes premiers, c'était 2017. Je me souviens de la date.
Oui, 2017, effectivement. Donc ça fait presque 3 ans. Et du coup, ouais, c'était, j'avais envie d'écrire sur un sujet, donc j'ai pris un truc qui me passait par la tête et je me suis dit, Medium, c'est sympa, ça fait un moment que je lis des articles dessus. Bon, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque c'était plutôt sympa. Du coup, je vais me lancer. J'ai fait cet article-là et il me semble que c'était au moment où j'écoutais Nouvelle École, tu sais, le podcast d'Antonin Archer qui a un peu posé les bases du podcast interview en France. Ben, tu vois, ce podcast-là, il m'a pas mal ouvert les yeux, en fait. Il m'a débloqué sur pas mal de sujets, parce que avant ça, il n'y a pas grand monde qui parlait aussi ouvertement des débuts quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans la création. Il a interviewé des artistes, des gens que tu connaissais ou pas d'ailleurs, et qui à un moment se sont lancés, ont fait un truc différent. Et c'est aussi là où je me suis rendu compte que, tu vois, les gens qui, les entrepreneurs, les freelances, les artistes, qu'ils aient beaucoup de succès ou pas, qu'ils soient suivis par 1 million de personnes ou par 15 personnes, ben on est tous pareils, en fait. Et on a tous, tu vois, c'est pas parce que tu as beaucoup de succès que tu vaux plus, ou que t'es forcément beaucoup plus intelligent, ou tu vois, en fait, au final, on est tous pareils, à peu près, hein, on est d'accord. Mais enfin, tout le monde a pas forcément un talent, mais des choses à raconter, des choses à faire, des passions à partager, voilà. Et du coup, ça m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus. Et je pense que c'est après avoir écouté ce podcast-là que j'ai écrit ce premier article. Et au final, un truc que
Tu t'es
j'avais
dit moi
appris,
aussi, quoi.
c'est ça, moi aussi, je peux tenter le truc, voir ce qui se passe. Et je savais, au final, parce que beaucoup de gens disaient ça déjà à l'époque, que la crainte d'avoir plein de mauvais retours et que des gens qui se foutent de toi quand tu crées du contenu, bah, est complètement infondée, parce que soit des gens, je crois que c'est Antonin Archer justement qui disait ça, c'est que quand tu vas créer ton premier contenu, soit personne va regarder ce que tu fais et ça va complètement passer inaperçu. Donc tant pis, tu vois, c'est pas grave. Soit les gens vont t'encourager, ils vont être gentils et peut-être même qu'ils vont apprécier. Les gros
Donc le risque,
haters,
il est minime.
voilà, le risque il est minime. Et les gros haters qui vont venir t'insulter parce que t'as écrit un article sur un sujet relativement pertinent, même si c'est un peu maladroit, ça n'existe pas, ça, sauf si t'as fait un truc vraiment scandaleux, quoi.
Ouais. Mais il y avait une autre question que je voulais te poser sur toutes ces réflexions-là autour du contenu, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante à la fois de ton fonctionnement, de comment tu trouves des clients, etc., mais aussi ce que tu vends à ces clients. Et la première phrase de ton site, c'est se démarquer, entre parenthèses, vraiment sur le web avec le content marketing et le copywriting. Et en lisant les différentes choses que tu partages sur ton site et dans ta proposition de valeur, d'ailleurs, il y a ce mot-là et tu l'as dit, le mot-clé tout à l'heure, et c'est un truc qu'on revoit venir beaucoup. Et il y a un truc dont je voulais discuter avec toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire justement ce mot valeur qu'on voit partout? Et tu le dis encore dans ton positionnement que on se doit d'apporter de la valeur et du sens et les clients suivront. Ça veut dire quoi du coup pour toi apporter de la valeur? Parce que tu dois partager ce point de vue qu'on le voit partout, mais au final j'ai l'impression que pas grand monde sait ce que ça veut dire.
Bah, effectivement, quoi de plus galvaudé que apporter de la valeur? C'est clair que
C'est clair.
c'est la mode, hein, d'apporter de la valeur, enfin en tout cas de dire que tu veux apporter de la valeur. Je dirais que c'est aller au-delà du minimum syndical et de comment dire du pratique au pratique, en fait. Il y a aussi l'aspect prendre vraiment en compte ce qui est attendu par les clients et ce que, par exemple, moi j'écris, je prends l'exemple de, par exemple, si j'écris un article pour un client, cet article-là, effectivement, je pourrais me contenter d'écrire un article du nombre de mots estimés, avec le bon sujet, voilà, dans un bon français, et puis voilà, tout le monde sera content. Mais cet
Donc remplir le
article-là,
brief, quoi.
voilà, exactement, mais enfin, faut aller un peu au-delà, parce qu'au final, le brief, c'est pas seulement d'écrire un article. Enfin, ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus stratégique, beaucoup plus globale, qui est d'apporter des éléments d'information et d'aider, en fait, des lecteurs, des potentiels clients de mon client à trouver des infos, justement, sur un sujet en particulier. Ça va ensuite, le fait qu'ils vont lire cet article-là, le but, c'est qu'ensuite, ils gagnent confiance, en fait, en la marque, et qu'ils se disent que bah, cette marque-là est crédible, elle est pertinente, elle peut m'aider, et que dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, si elles ont besoin d'un service qui est proche de cette marque-là, bah, ils vont peut-être se dire, tiens, c'est vrai que l'autre fois, j'avais lu un article sur les sites de cette marque, bah, c'était assez pertinent. Bon, le processus mental, il n'est pas aussi conscient que ça. Souvent, c'est un peu comme le top of mind, enfin, les trucs très marketing. Au final, la notoriété, c'est pas forcément très, très conscientisé. C'est souvent, on connaît des marques, on sait pas pourquoi, on sait même pas d'où on les connaît, ni pourquoi est-ce qu'on les a en tête.
Mais elles sont là dans notre tête.
Mais elles sont là, et du coup, vu qu'elles sont là, on a envie de leur faire confiance. Et ouais. Du coup, je pense qu'apporter de la valeur, c'est de réfléchir à quoi ça va servir ce que tu fais, et essayer de le faire de la meilleure manière possible pour que, pour que il y ait satisfaction globale au final. C'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, ce que j'essaie de faire avec mon propre contenu. Mais c'est vrai que cette notion de valeur, c'est important de redéfinir un peu parce que tout le monde en parle. Au final...
Bah ouais. Je pense effectivement, ça veut, au bout d'un moment, quand tout le monde en parle, si chacun a une propre version de la définition différente, ça veut pas forcément dire la même chose. Du coup, ce que tu me dis là, c'est que pour toi, la valeur, c'est en gros quelle différence concrète ça fait dans la vie de la personne en face. C'est-à-dire que toi, apporter de la valeur à moi, par exemple, ou à tes clients, c'est quelle différence concrète ça fait, ce que tu leur donnes, et quelle est la satisfaction qu'ils en retirent?
C'est ça, il y a la notion de résultat. Parce qu'au final, tout est question de valeur. Quand tu achètes quelque chose, un produit, un service, c'est parce que tu y vois une certaine valeur perçue. Ça marche pour tout, au final. Même un contenu gratuit, un article, un podcast, une vidéo... tu y recherches une certaine valeur, même si c'est gratuit, tu vas pas regarder quelque chose où, enfin, si t'as l'impression que ça va servir à rien et que la qualité elle est pas là. Donc la valeur, c'est vraiment quelque chose qui suscite vraiment, t'es content quoi d'avoir regardé ça parce que ça t'a aidé en fait, que ce soit professionnel, personnel, peu importe.
Et du coup, ce que en y réfléchissant justement, ça m'a frappé quand j'ai lu ton truc, et c'est une discussion que j'avais eue récemment avec des potes sur ça. C'est au final, quand on dit il faut apporter de la valeur, faut créer du contenu à forte valeur ajoutée, etc. Je pense qu'il y a pas mal de personnes pour qui lire ça les aide pas parce qu'ils savent pas comment faire concrètement, tu vois. C'est-à-dire ouais, c'est ok, il faut que j'apporte de la valeur maintenant quoi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces gens?
Bah, le contenu à forte valeur ajoutée, pour moi, il y a vraiment, il est construit en opposition en fait à un autre contenu qui est le contenu au plus mauvais sens du terme. Tu vois, la notion même, le mot même de contenu, il est pas hyper judicieux si tu réfléchis bien. Le contenu, c'est quelque chose qui est là pour remplir un trou, concrètement pour remplir un vide. Il y a rien de pire que du contenu qui est littéralement un contenu, quoi. Enfin, je pense qu'il faut aller au-delà de ça.
C'est intéressant.
Ben ouais, enfin, si tu réfléchis un peu à la sémantique, enfin, moi, quand je parle de contenu à des personnes qui sont pas du tout dans cet univers-là, ils comprennent pas, ils me disent, ouais, tu remplis les blancs, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors qu'un contenu, aujourd'hui, ça peut avoir une vraie valeur. Mais si tu regardes sur Internet aujourd'hui, que ce soit les contenus, voilà, que tu peux trouver sur Google, aléatoirement, comme ça, quand tu tapes une requête, ou les contenus qui sont proposés par des gens, par des freelances, par des boîtes, bah, tu vois vraiment deux mondes. T'as le contenu où ça se voit que ça a été construit selon une cible en particulier, avec un objectif précis, un vrai travail de fond qui a été fait dessus. Ça se voit que ça a pas été fait par-dessus la jambe par quelqu'un qui connaissait pas du tout le sujet en 10 minutes. Donc, enfin, là, tu vois qu'il y a une vraie valeur ajoutée, littéralement. Alors que t'as d'autres choses. Des fois, tu tombes sur des articles. Bon, aujourd'hui un peu moins parce que Google sanctionne les articles à faible valeur ajoutée. Surtout ceux qui ont un taux de rebond élevé, qui ont une durée de lecture très basse, etc. Tu vois, les articles très SEO, les articles vraiment suroptimisés qu'on voyait partout.
C'est ce dont j'allais parler justement, quand t'as 50 articles qui font 30 lignes à peine juste pour ranker sur les mots-clés, quoi. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'on sort un peu de ça. Et un autre truc que moi je vois derrière cette notion de valeur, c'est... quand tu es l'émetteur, donc toi, par exemple, qui écris un article pour un client ou pour ton blog ou moi avec un épisode de podcast, pour moi, ce que c'est apporter de la valeur, c'est se mettre dans une posture où on a vraiment envie d'être au service de ceux qui vont consommer le contenu de l'autre côté. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que tu pars toujours de cet élan de qu'est-ce que je peux faire, quelles questions que je peux poser, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire, qui va vraiment aider les gens en face à débloquer quelque chose, quoi. Plutôt que de le faire dans « je fais ça pour... » avoir un ranking sur une requête dans Google ou pour prendre la parole sur ce sujet, parler de moi, mais inverser le truc et faire ça pour l'autre avant, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi, cet élan, inverser l'élan pour lequel tu le fais.
Bah ouais, c'est au centre du projet, tu vois. C'est comme l'entrepreneuriat, si tu entreprends juste pour gagner de l'argent ou pour des raisons qui sont secondaires, en fait, au lieu de vouloir juste apporter une solution à un problème, bah c'est pas, enfin il y a peu de chances que ça fonctionne bien, quoi. Et quand tu freelances, c'est pareil. Et surtout dans le contenu, il y a, enfin, c'est là où ça s'illustre le plus directement, quoi. T'as vraiment des contenus où t'as de la valeur et des contenus où t'as pas de valeur. Tu lis un article où il y a de la valeur, tu dis, ah, c'est vraiment, enfin, tout va bien, tu vois. Enfin, l'article, il est bien ranké, du coup, parce qu'il apporte de la valeur. Il a un fort potentiel de conversion. Voilà, il y a plein de choses qui font que cet article-là, il va bien fonctionner. Alors qu'un contenu vraiment, comme on pouvait en voir il y a quelques années, qui a juste pompé les meilleurs articles sur le sujet, qui a un peu reformulé le tout et qui a mis plein de mots-clés partout, bah ça, enfin ça c'est horrible.
Ouais, on le voit maintenant, quoi. C'est clair.
Oui, c'est clair, ça se voit.
C'est clair. Ouais, bah, je vois que le temps tourne et il y a un autre sujet dont je veux vraiment parler, donc je vais passer à la suite, mais merci pour ton partage. J'espère que les auditeurs auront un peu plus de compréhension de ce que ça veut dire valeur. Et d'ailleurs, si vous avez, vous qui nous écoutez, une autre définition, je suis curieux de la voir, n'hésitez pas à nous partager à moi ou à Brice ce que vous entendez par valeur ou valeur ajoutée. Mais le dernier truc dont je voulais parler avec toi avant de finaliser sur les questions de fin, c'est, on parlait tout à l'heure de est-ce que je fais du Brice Schwartz ou est-ce que je fais du content marketing, puisqu'il faut faire du content marketing. Et toi, il y a un élément dans ton positionnement depuis les derniers mois. En tout cas, je crois que c'est depuis l'été 2019 que tu as commencé à vraiment l'assumer et le porter haut et fort. C'est un truc que tu mets dans ton positionnement, qui est cette notion de résistance écologique. Et ton premier article sur le sujet, il date du coup de l'été 2019. Et moi, je suis curieux de savoir... Là, pourquoi est-ce que tu t'es décidé à intégrer ça dans ta prise de parole et dans ton positionnement? Et pourquoi tu l'as pas fait avant? Et qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui a emmené ça, en fait?
Je savais que t'avais posé cette question. C'est vraiment le truc qui dénote un peu.
Ça te caractérise, donc, évidemment.
Hein. C'est vraiment un aspect perso que j'essaie de faire passer dans mon activité pro. Pour revenir un peu là-dessus, pour les personnes qui me suivent un peu de ça, mes potes, les gens qui me suivent, ma petite audience, etc. Je suis quelqu'un d'engagé au sens écologique parce que c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point, parce que pour moi, il n'y a pas de plus grande cause que la cause écologique au sens large. Tu vois, la sauvegarde du vivant, lutter contre l'effondrement qui arrive, l'extraction de masse, voilà, on va pas forcément casser l'ambiance. Mais disons qu'on est un peu... voilà, quand la crise du coronavirus sera passée, on aura une autre beaucoup 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 plus grosse qui va arriver. Et ça, il faut en avoir conscience. Et moi, mon but, c'est de sensibiliser à ça, pas forcément juste pour casser l'ambiance, pour être le rabat-joie de service et pour dire faut arrêter de faire n'importe quoi maintenant. Regardez, ça c'est pas bien. Par contre, faut faire ça. Sinon, il va vous arriver ça. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que tu convaincs les gens. Par contre, sensibiliser, faire de la pédagogie, sans forcément te poser en dictateur vert et en culpabilisant les gens, ça peut fonctionner. Ouais. Et du coup, mon but, c'est d'utiliser l'audience que j'ai à ma petite échelle pour passer ce message-là. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans mes articles, dans mes newsletters, etc., quand je parle d'écologie et de résistance écologique, parce que ça englobe plus le combat global et pas seulement les petits gestes, éteindre la lumière, consommer moins en voiture.
Pisser dans sa douche.
Voilà, je suis un peu je lutte un peu contre ces petits gestes qui sont très largement insuffisants. Faut voir plus la chose comme un combat global qui, voilà, c'est vraiment quelque chose de macro, quoi. Tout le monde se rend pas forcément compte que prendre l'avion, ça pollue, prendre l'avion une fois sur un trajet de 10 heures, ça pollue plus que rouler en voiture pendant un an. On n'a pas ces échelles-là tous dans la tête. Pas encore, en tout cas. Et du coup, j'essaie vraiment de faire passer ces messages-là en partageant des ressources, en citant des gens, en mentionnant des gens qui étudient le sujet. Il y a pas mal de petits collectifs du type, l'affaire du siècle, on est prêt, voilà, pas mal des personnes présentes sur YouTube et ailleurs sur Internet qui créent beaucoup de contenu autour du sujet et qui sont très très documentés, en fait, parce qu'ils citent des vrais chiffres, mais ces chiffres-là, ils suffisent pas au final à faire prendre conscience aux gens au grand public, je veux dire, de la situation.
Ouais.
Et du coup, je me dis, si moi je peux intégrer ça un peu dans ma communication, dans mon contenu, justement, ça peut avoir un effet positif. Après, je t'avoue que si je regarde l'audience, enfin je regarde souvent l'audience de mes contenus, clairement c'est pas ce sujet-là qui passionne le plus les foules. En même temps, les gens me suivent pas pour ça. Moi, c'est plutôt des freelances, des gens du marketing de contenu, des gens de la com qui me suivent. Donc s'ils me suivent, c'est plutôt pour les fois où je parle de freelancing, pour content marketing, copywriting, et après j'ajoute ça.
C'est quoi ta vision du coup avec ça? Pardon. C'est quoi ta vision du coup avec ça? Tu veux l'emmener où? Tu vois, si tu te projettes dans le long terme, comment tu joues sur l'équilibre entre les deux? Ouais, tu te projettes comment avec ces deux sujets-là, justement?
Bah, en fait, justement, tout est un peu planifié d'une manière, comment dire, une manière assez, c'est un peu une esquisse dans mon esprit, on va dire, mais je sais où je vais, hein. Ça fait longtemps, en fait, que j'ai envie de créer un grand projet autour de, pas de l'écologie, parce qu'au final, ça, il y a de très belles petites startups qui font ça bien, des plus grosses boîtes qui s'y mettent vraiment, on va vraiment au-delà du greenwashing, et ça fait vraiment plaisir à voir, mais j'ai envie de créer quelque chose, en fait, qui serait associer des compétences de personnes, d'experts, notamment surtout dans le contenu marketing, qui seraient au service d'une seule typologie de clients, et ce seraient les vrais acteurs à impact. Donc ça inclut les ONG, les ESS, l'économie sociale et solidaire, les tech for good, vraiment tous ceux qui sont vraiment engagés. Pas, au final, aujourd'hui, si on regarde un peu la communication des entreprises, tout le monde est engagé, en fait. Tout le monde fait des efforts, tout le monde est RSE, tout le monde a conscience de ce qui se passe et tout le monde veut améliorer les choses, mais au final, dans les faits, t'as une extrême minorité qui agit vraiment. Et du coup, mon but, ce serait de créer une sorte d'agence ou de collectif ou de boîte pour réunir un peu des gens comme ça qui seraient un peu câblés sur, pareil, donc très content marketing et très résistance écologique et d'aller plus loin. Mais ça, c'est un projet plutôt... moyen terme, on va dire. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est vers là que je veux aller, hein. S'il y a des personnes qui me suivaient, qui voyaient que je parlais de ces sujets-là et qui savaient pas que c'était ça le grand projet derrière, même si j'en ai déjà un peu parlé, il me semble, bah en tout cas voilà, maintenant vous savez tout, mais c'est pour pas non plus marquer une
et du coup c'est
trop brute, pardon,
trop vrai. Okay.
Les jours où je lancerai ça, parce que si tu change du tout au tout du jour au lendemain, et je vais vous dire, tiens, il s'est découvert une conscience écologique hier soir, ça fait un peu bizarre. Alors que là, ça, le but, c'est toujours de glisser ça un peu sous la porte, ce sujet-là.
Tu prépares petit à petit, quoi.
Bah, c'est ça, parce qu'au final, c'est un sujet qui, voilà, on a l'avantage, c'est que c'est un sujet qui est de plus en plus populaire, hein, on en parle de plus en plus, il y a moins de tabous autour de ça, il y a encore 5-10 ans, l'écologie, c'était un truc de bobo, ou alors de hippie, voilà, un peu marginaux, on va dire. Aujourd'hui, les gens ont plus conscience de ça et tout le monde se dit au moins un peu engagé, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On fait tous des efforts et là, le but, ce serait vraiment d'aller plus loin pour avoir un vrai impact au final. On parle beaucoup d'impact partout, presque autant que de valeur d'ailleurs, mais l'impact, c'est une notion qui mérite... quand tu regardes ce qui se passe dans l'entrepreneuriat à impact, les acteurs du changement et tous ces acteurs-là, les Make Sense, les Ticket for Change, il y a des incubateurs pour acteurs engagés. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements là-dessus. Il y a des fonds d'investissement aussi, des fonds verts qui investissent que dans les startups à impact positif. Enfin, vraiment, c'est l'écosystème, il est en pleine construction et je pense que bientôt sera le moment d'y apporter ma contribution.
Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse forcément de plus en plus les freelances et les indépendants aussi, parce que pour beaucoup de gens, dans cette volonté de se lancer et de passer à son compte, et il y a cette question de choix et de sélection des projets pour lesquels on travaille et de ses clients aussi derrière. Et je pense que clairement ta démarche, elle fait partie de ce mouvement. Et je pense que une des raisons pour laquelle je voulais te poser cette question, c'est aussi pour qu'on parle de trop souvent cette peur qu'on peut avoir de prendre la parole sur des choses qu'on juge être perso et pas pro, et de pas les intégrer dans notre manière de nous positionner, de prendre la parole quand on est free. Et toi, tu le fais avec ce sujet. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir, parce que parfois, notamment sur Twitter, t'es assez véhément dessus. Est-ce que t'as déjà eu...
Il faut pas que les gens me suivent.
Des retours. Ouais, parce que t'es assez tranchant. Hein.
Il faut.
Ça me fait rire à le voir. Ben ouais. Mais du coup, est-ce que t'as déjà eu des retours à la fois positifs et négatifs sur le fait que tu prennes de plus en plus la parole sur ça? C'est quoi les choses mesurables et concrètes qui se sont passées depuis que tu l'assumes de plus en plus?
Alors effectivement, Twitter, c'est un sujet. Je suis totalement public, en fait, transparent sur Twitter. Il y a mon nom, mon prénom. Voilà, j'assume tout ce que je raconte. Ouais. Mais forcément, là-dessus, Twitter, c'est moi, je m'en sers comme à la fois comme du pro, comme du perso, comme de la veille. Vraiment, il y a tout n'importe quoi sur mon Twitter. Et du coup,
il y a Brice Schwartz, quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis plus de 1000 comptes et du coup, ça va de des ONG à des entrepreneurs, en passant par des humoristes et des gens très à droite, et des gens très à gauche, et vraiment j'essaie d'être et des journalistes, enfin vraiment des médias, enfin énormément de choses pour avoir une vision de l'actu, mais au sens très très large du terme, tu vois, hyper objective. Et du coup, j'hésite pas non plus à partager des idées plutôt tranchées. Et je pars du principe que et ça tu le sais, beaucoup de gens qui écoutent le savent, c'est que si t'es lisse, tu peux pas vraiment te démarquer. Alors le but, c'est pas du tout de se créer une fausse personnalité et de se donner un genre et de s'inventer un avis en fait sur un sujet qu'on connaît pas. Par contre, le but, c'est de pas hésiter à exprimer ses opinions d'une manière, voilà, essayer de rester diplomate. Mais parfois, il y a des sujets où c'est difficile de rester diplomate. Après, les retours, franchement, j'ai déjà eu de tout. Souvent, sur Insta aussi, je partage pas mal de trucs sur l'écologie. Mais du coup, effectivement, quand je vais un peu au-delà de ce qu'on entend au quotidien, on entend, voilà, il faut manger bio, il faut prendre son vélo, et il faut réduire la viande. Bah, quand on va un peu au-delà de tout ça et qu'on dit qu'il faut changer le système, qu'il faut peut-être remettre un peu en question le capitalisme, tu vois, des choses comme ça, il y a des réactions assez véhémentes parce qu'on a, enfin, souvent on a vécu dans une certaine idée du monde et de l'économie et de la culture et de la société, enfin voilà, et voir quelqu'un qui bouscule un peu tout ça, qui remet en question en fait l'ordre établi, personne aime ça parce que ça nous remet en question nous-mêmes et tu vois, personne aime se sentir un peu, ouais, si je m'étais menti à moi-même un peu.
Bousculer dans ses convictions, quoi.
Exactement. Et ça, c'est un truc qui génère soit des retours très positifs. Waouh, franchement, c'est ton avis. Enfin, je savais pas. Franchement, c'est incroyable. Ça a changé ma vision du truc, sur tel sujet, par exemple. Ou alors, voilà, des gens qui m'appellent par téléphone pour me dire, ouais, vous prenez pour qui? Enfin, bon, j'ai déjà eu des histoires un peu comme ça. Mais après, c'est marrant parce que j'avais eu une question il y a quelques mois. J'avais posé des questions à ma newsletter, à mon audience dans ma newsletter sur je vais lancer ma chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des questions? Un peu sur le même principe que la freelance hotline. Des questions auxquelles je pourrais répondre. Et il y a une personne qui me suit sur Twitter qui m'a demandé, je te suis sur Twitter, et je me demandais si tes prises de position t'avaient déjà causé du tort, en fait, avec certains clients ou dans ton activité en général. Donc j'ai pas encore répondu à cette question, mais honnêtement je dirais non, parce que mes clients m'ont jamais fait la moindre réflexion là-dessus. Au contraire, ça a parfois peut-être, tu vois, ça permet de me positionner comme quelqu'un d'engagé, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est recherché par certaines entreprises, surtout les plus engagées elles-mêmes.
Ouais, et je pense que ça peut renforcer les liens avec, encore une fois, ce truc quand tu prends la parole sur tes convictions, soit effectivement ça repousse de manière véhémente certaines personnes, et si elles prennent le temps de venir te entre guillemets te faire chier sur le sujet, ben c'est presque triste pour elles qu'elles aient pas mieux à faire que ça. Mais avec ceux qui sont d'accord, ça crée des liens encore plus forts, et les gens qui partagent tes convictions, au final, c'est potentiellement les gens avec qui t'as envie de travailler. J'ai noté par exemple sur ton LinkedIn, il y a l'avis d'un certain Maxence, qu'on salue s'il écoute, et son titre LinkedIn à lui, c'est « J'aide les écolos à se lancer dans l'entrepreneuriat », donc c'est un client à toi, c'est ça?
C'est un client, c'est un partenaire, c'est un pote, presque un pote, parce qu'on parle quand même régulièrement, et quelqu'un qui est hyper engagé,
preuve en est, quoi,
et qui n'hésite pas du tout à l'affirmer aussi, donc Maxence Fourneau, si tu nous écoutes. Mais il y a d'autres personnes comme ça aussi, plus ou moins engagés aussi, mais on voit de plus en plus de freelance qui se disent à impact positif, pour les marques engagées, voilà, on en connaît tous pas mal, et après ça, chacun place le curseur à différents niveaux, mais en tout cas il y a moins, même sur LinkedIn, qui est quand même un endroit assez, de moins en moins, mais qui
à l'époque
quand même,
pro, quoi,
voilà, assez pro dans le mauvais sens du terme,
entre guillemets, col blanc, quoi.
un peu corpo, voilà, un peu chiant, aussi. On n'hésite plus forcément à s'exprimer sur des opinions. Bon, forcément, ça devient un peu Facebook parfois, et ça, c'est un peu, c'est pas forcément ce qu'on veut, hein. On veut pas que LinkedIn devienne Facebook. Mais, enfin, le fait qu'on puisse s'exprimer comme ça sur des sujets, aussi tranchés que la résistance écologique, et qu'il y a des gens qui me disent, mais au contraire, je pense que c'est le bon endroit pour en parler parce que, il y a des personnes qui peuvent agir parce qu'elles ont des jobs,
des moyens,
des responsabilités. C'est peut-être justement le meilleur endroit. Mais après, clairement, l'engagement, le taux d'engagement n'est pas du tout le même quand je parle d'écologie ou quand je parle de freelancing. Freelancing, il y a un engagement de fou là-dessus, quoi.
Ça va être super intéressant, du coup, de suivre l'évolution de comment tu lis tout ça ensemble. J'ai hâte de voir comment tu donnes vie à ça, quoi.
Moi aussi, j'ai hâte de voir ça.
J'imagine que toi aussi. On va arriver du coup sur les questions rituelles de fin de podcast.
Yes.
Et la première, je suis assez curieux d'ailleurs de ta réponse à cette première, parce que je ne sais pas s'il y en a eu. Mais la première question, c'est: quelle est la pire galère que tu as vécue dans ton activité de free, et comment tu as fait pour la surmonter?
Ah là là, c'est question typique au final. qu'on connaît tous, mais qu'on ne prépare pas, n'est-ce pas? En fait, j'ai pas. Tu vois, c'est ça fait un peu allusion à un concept dont je parlais récemment sur LinkedIn, sur Medium, etc. J'en avais parlé avec des gens. C'est la fameuse culture de l'échec. On a un peu l'impression en ce moment, peu. Ça, c'est une culture un peu inspirée des États-Unis, qu'il faut avoir échoué pour réussir. Mais
je me souviens de ton poste.
Voilà, même si échouer c'est un bien grand mot, réussir c'est un bien grand mot également. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands échecs pour réussir. Après. J'ai pas eu d'énormes galères. Si je devais revenir sur peut-être un point, c'est que vers la fin de mes études, ça devenait vraiment compliqué financièrement parce que j'ai financé mes études moi-même. Voilà, avec tout l'emprunt, toutes les économies, tout ce qui va avec, tous les jobs étudiants, et dont le freelancing. Et il y a un moment quand même où je me disais que là, ça devient vraiment compliqué. Donc à un moment, vraiment, c'est le freelancing qui m'a sauvé, clairement. Je bossais tous les soirs et tous les week-ends pour les clients parce que ça me permettait ensuite de payer mon loyer, notamment quand j'étais à Paris en stage dans une start-up qui me payait au final la gratification de stage était inférieure au montant de mon loyer. Donc voilà, techniquement, t'as pas besoin d'être très bon en maths pour comprendre que c'est pas dingue. Heureusement, je gagnais plus en freelance à ce moment-là que je gagnais dans ma start-up en stage. Donc heureusement. Mais à un moment, c'est quand même dur psychologiquement quand t'es obligé de bosser et de te dire. Surtout au début, quoi. Je bossais beaucoup via des plateformes, et c'était pas forcément facile de gagner beaucoup d'argent en travaillant très peu. C'est facile pour personne, ça. Mais à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Je pouvais travailler que le soir et le week-end. Donc financièrement, quand c'est compliqué, ça joue psychologiquement et tu te sens pas forcément très bien et tu te sens un peu coincé, quoi. Et puis, il y avait cet engagement parce que je m'étais engagé à faire ces études en école de commerce. J'avais toute cette responsabilité. Donc fallait que j'aille au bout. Fallait que j'aille au bout, peu importe le moyen. Donc j'ai pas été jusqu'à vendre des choses illicites, hein, même si ça reste une solution envisagée par certains. Moi j'ai préféré vraiment mettre les bouchées doubles sur le freelancing et me dire bon c'est pas grave si je sors pas trop le soir et le week-end et que je vais pas boire des pintes avec les collègues le soir avec. C'est pas grave, au final je vais rencontrer des gens cool plus tard aussi. Donc là aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour finir mes études, c'est d'argent. Donc je me suis dit, c'est pas grave si je bosse beaucoup et que je laisse un peu le reste de ma vie sociale de côté. Au final, ça s'est bien passé puisque j'ai pas eu de gros soucis par la suite. Et puis maintenant, ça va bien. Donc, je pense que c'était des sacrifices à faire à un moment donné pour arriver plus loin. Donc, disons que la galère financière, je pense que c'est un sujet encore assez tabou hein, en France. On commence à en parler. Mais ça reste... on sait pas en fait combien gagne qui. C'est pas parce que t'as entendu quelqu'un dans un podcast qu'il est forcément plein aux S. Enfin, faut aller un peu.
C'est clair.
On sait pas. Il y a des gens que tu ne vois pas du tout, qui communiquent jamais, qui gagnent très mal leur vie. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont très visibles, des freelances par exemple, qui ont souvent des galères. Voilà, parce que avec les clients, ça vient.
Et c'est hyper intéressant.
Voilà.
C'est hyper intéressant ce sujet parce que effectivement, je pense que. Pour nous deux, par exemple, en créant du contenu, en ayant une newsletter, des gens qui nous suivent tous les jours, etc., ça crée une perception autour de nous de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la réussite, et tout le monde peut se projeter sur des montants pharaoniques qu'on peut gagner, etc., etc. Mais du coup, j'imagine que t'es dans la même situation que moi, je rembourse encore mon prêt étudiant, quoi. Que pareil, moi aussi, j'ai pris un prêt étudiant pour financer mes études, pour financer le fait de pouvoir aller à Paris et bosser. Quand j'étais étudiant, en plus, je gérais super mal mon argent, j'ai tout flingué trop rapidement. Donc, le freelancing pour moi aussi, c'était une manière de gagner des sous pour continuer d'être bien, quoi.
Je savais pas que c'était.
Pas trop le choix, hein. Mes parents, pour le coup, c'est des grands hippies, donc ta discussion avec ton sujet autour de la résistance écologique et tout, du fait d'être perçu comme des hippies, etc. Moi, mes parents, c'est ce type de personnes. En tout cas, c'était dans leur jeunesse, et ce qui justifie le fait que là, pour enregistrer ce podcast en confinement, je suis dans notre petite cabane du fin fond de la campagne qu'ils ont achetée, qui était une ruine et qu'ils ont retapé de leurs mains. Mais du coup, ouais, moi, j'avais pas non plus le choix que, ok, faut aller si je vais à Paris dans une grande école, faut que je prenne un emprunt parce que y a que comme ça que je vais pouvoir me payer mes études. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle souvent et classiquement. Et je pense que ça aurait le mérite de qu'on en parle plus. Parce que finalement, à parler avec des gens qui s'en sortent super bien ou qui gèrent bien leur argent, etc., au final, tu ne peux faire qu'apprendre.
Ouais, complètement.
À discuter de ça.
Bah, t'as
et au contraire, si t'es dans la merde, t'as tout intérêt à en parler aussi, parce que tu peux apprendre à t'en sortir.
Bah, complètement. Enfin, tu connais Delphine Pinon, qui est passée sur
le
podcast. Elle a lancé le podcast Budget Chéri. C'est une petite initiative parmi quelques autres, mais ça commence de plus en plus à émerger, quoi. C'est vrai que c'est un sujet dont on parlait pas trop. Après, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai, c'est que la France, c'est quand même un pays, contrairement.
Culturellement, c'est pas.
Voilà, culturellement, tu parles pas forcément d'argent. On a souvent grandi dans des familles où voilà, les gens qui ont de l'argent ils sont considérés comme des gens qui ont fait des mauvaises choses pour avoir de l'argent, ou alors voilà, t'as grandi dans une famille où t'as toujours eu de l'argent et là bah à l'inverse c'est normal, donc t'en parles pas parce que tu sais, t'as l'impression qu'autour de toi il y a que des gens qui sont jaloux, etc. Donc au final on a tous des a priori, des préjugés, et même ça se fait pas trop de dire bah là je peux pas, par exemple là par exemple je peux pas sortir parce que j'ai pas trop d'argent, tu vois. Par exemple quand t'es étudiant, c'est un truc qui se dit pas trop, ça s'assume pas trop en fait, alors qu'au final c'est juste c'est une question très technique si tu réfléchis bien. Genre j'ai pas assez de chiffres sur mon compte bancaire pour pouvoir m'offrir cette sortie-là, tu vois. Genre si tu regardes le truc d'une manière très analytique, c'est vraiment un problème technique, c'est pas un problème t'es pas quelqu'un de mauvais parce que t'as pas d'argent.
Alors qu'on en fait un problème de personnalité presque.
Bah ouais, c'est ça.
Et ce qui est intéressant du coup, c'est, tu vois, je pense que toi tu vas pouvoir aussi apporter ça, et moi c'est un truc que je m'efforce de faire parce que j'ai plein d'amis qui sont à fond dans l'écologie, dans tous ces trucs là et souvent c'est un travers qu'il y a dans ces milieux de se dire l'argent c'est mal, le marketing c'est mal, et du coup c'est intéressant que toi que tu regroupes les deux. C'est, t'es un marketeur et en même temps tu défends ces sujets de résistance et d'écologie, et souvent c'est deux sujets qui justement se tirent dessus et se détestent, quoi.
Bah, complètement.
C'est intéressant ce point de rencontre, je pense aussi.
C'est pas évident d'en parler avec tout le monde. Par exemple, si je vais voir des personnes qui sont plus d'un côté, donc plus du côté écologiste, on va dire, dans la lutte, la vraie, c'est plus compliqué, tu vois, de les convaincre que quelqu'un qui, à l'inverse, est très dans l'entrepreneuriat, voilà. Autant d'un côté ça passe, autant de l'autre côté j'ai l'impression que, tu vois, par exemple si je suis dans une manif, j'ai fait quelques manifs, quelques marches pour le climat, notamment à Bruxelles l'année dernière, c'était assez fou, il y avait 100 000 personnes, j'ai pas retrouvé ça en France, mais tu vois, il y a des personnes qui sont très engagées. Si tu leur dis bah moi je vais essayer de changer le monde en faisant du marketing, ils vont dire mais t'es un traître en fait.
T'es qui, quoi? Casse-toi de ma marche.
Bah exactement. Alors qu'en fait, pour moi, le marketing, le freelancing, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est des outils. Tout dépend de ce que tu veux faire au final. Quel est ton vrai, tu vois, ton vrai but? Ton but, c'est pas juste de gagner de l'argent, c'est pas juste d'écrire pour des clients, c'est pas juste de permettre à ces clients-là d'avoir plus de clients. Ça, c'est des moyens au final. Mais la fin, c'est quoi? Tu vois, par exemple, moi, j'encourage souvent les freelances qui veulent s'engager pour la planète, pour l'humanité, pour le vivant. Bah, à tout simplement mieux choisir leurs clients et à arrêter de travailler direct. Moi, je suis très direct, tu vois, donc le boycott, ça me pose aucun souci. S'il faut boycotter certaines entreprises, aussi bien au niveau de... Enfin, aussi bien quand on est consommateur que quand on est prestataire de services ou quand on est collaborateur, s'il faut vraiment laisser ces boîtes-là de côté pour laisser émerger les alternatives plus responsables, bah il y a aucun souci, tu vois. Évidemment ça va faire
du
mal, tu vois, ça va faire du mal à ces grosses boîtes là qui vont devoir licencier, qui vont peut-être même devoir fermer, mais à un moment on peut plus continuer comme ça éternellement, et à un moment il faut prendre des actions un peu plus radicales que juste dire ouais c'est vrai McDo c'est pas terrible mais bon ça fait quand même plaisir, hein. Je veux dire, surtout que tu vois la file qui
a, je vois McDo, tout à fait ce que tu veux dire,
à la réouverture des drives là il y a quelques jours.
Ouais, j'ai vu passer les infos aussi.
Donc voilà.
La question d'après, on passe à la prochaine question, c'est si t'étais face à Brice Schwartz qui se lance, c'est son tout premier jour de freelancing pendant ses études, c'est quoi le conseil que tu te donnes à toi-même en te voyant ton jeune toi?
C'est déjà, c'est bien, il y a de l'idée, faut juste continuer maintenant. Et surtout, j'aurais créé ma marque personnelle plus tôt. Au final, j'ai vraiment bossé là-dessus à partir de, d'il y a un an et demi. Avant ça, j'étais invisible, j'étais présent sur les plateformes, sur les grosses plateformes, plutôt recommandables. Je sais pas si on peut les citer.
Si, tu peux, bien sûr.
On peut citer Crème de la Crème, Malte, qui sont quand même pour moi les plus recommandables. Après, j'étais en dehors de ça, j'étais invisible quoi sur Internet. Mais franchement, je me dis, si j'avais commencé il y a 3 ans à créer du contenu, à écrire des articles, même maladroit, hein, on commence tous comme ça, à faire des vidéos, à faire ce que je fais aujourd'hui, bah, je pense que je serais encore plus loin. Tu vois, tu dis que c'est allé vite, mais je pense que ça serait allé encore plus vite si j'avais commencé plus tôt à créer cette fameuse marque personnelle qu'on,
voilà, qu'on place. Et à parler de résistance écologique, du coup, aussi.
Alors peut-être pas, parce qu'à ce moment-là j'étais encore plus engagé, j'étais encore plus, j'avais une vision encore plus radicale des choses. Voilà, moi je préfère être, tu vois, transparent là-dessus. Les gens qui me suivent un peu le savent, surtout s'ils me suivent sur Twitter. moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est anticapitalisme, anarchie, tu vois, des modèles de société très différents de ce qu'on connaît, sans forcément dire que c'est mieux, c'est pas bien, le communisme c'est le bien, le communisme c'est le mal, c'est voilà, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu peux pas juger un modèle de société sur 3-4 bouquins que t'as lu sur le sujet, tout comme le capitalisme.
Je te rejoins sur cette vision.
Ça va. Tout comme le capitalisme n'est pas parfait, mais il n'est pas non plus à jeter complètement. Enfin, c'est compliqué comme question. Et à l'époque, j'avais une vision encore plus tranchée. Donc, j'aurais peut-être, enfin, si j'avais fait du, si j'avais produit du contenu sur ces sujets-là, j'aurais risqué d'être là, de me tirer une vraie balle dans le pied. Par contre, parce que j'avais à l'époque pour
d'être trop d'un bord, quoi.
Bah, c'est ça. Pour synthétiser un peu ma pensée à l'époque, c'était beaucoup plus. Cette société capitaliste ne peut pas, en fait, nous mener dans le droit chemin. Et du coup, il y a un seul moyen pour sauver l'humanité et le vivant en général, bah, c'est d'y mettre fin. Donc, j'aurais pas forcément allié entrepreneuriat, freelancing, marketing, etc.
Avec... Ouais, alors qu'aujourd'hui, t'es peut-être plus équilibré sur le sujet, quoi.
Ah, complètement. Et c'est tout l'intérêt de, tu vois, quand tu te lances dans un nouveau sujet, tu deviens passionné de ce sujet-là et tu avales, tu bois toutes les paroles de tous les experts du sujet et tu deviens un peu endoctriné. Donc, c'est important aussi de sortir un peu de ce monde-là et d'aller voir un peu ce qui se dit ailleurs. Et c'est important, je trouve, pour moi, il n'y a rien de plus passionnant qu'un débat, un vrai débat, pas un débat que tu vois à la télé, tu vois, un débat fondé avec des vrais arguments qui s'opposent, tu vois, enfin c'est facile.
Brillants tous les deux.
Comment?
Des gens qui sont brillants tous les deux et qui sont pas d'accord.
C'est ça. Là tu peux vraiment développer ta propre réflexion, ta propre pensée, quoi.
Et du coup, la dernière question, qui est, comme tu le sais, sûrement ma préférée. Une question que tu as envie de poser aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir cette semaine à leur activité, leur vie, tout ce qui se passe. C'est quoi cette question?
Ben, tu vois, je suis aussi dans cette logique de, c'est essentiel de poser les bonnes questions pour avancer et surtout de se poser les bonnes questions. Et au risque de pas forcément être très original, j'ai envie de te demander, à toi qui écoutes ce podcast, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, en fait, et quel impact, quelle empreinte tu veux laisser? Voilà, c'est peut-être une question très très vaste, mais au final, on a tous une réponse à cette question, plus ou moins consciente, mais en y réfléchissant un peu, on sait que on est plus ou moins dans le droit chemin par rapport à ce qu'on a envie de faire, ou alors qu'on est un peu en train de s'égarer. Et parfois, ça fait du bien de se reposer des questions hyper basiques, hein. Clairement, c'est du bon sens et on va pas réinventer la roue avec cette question-là, mais ça fait du bien de se redemander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et où est-ce que je vais, en fait, concrètement. Bon, effectivement, la période actuelle, voilà, on enregistre ce podcast pendant le confinement, le coronavirus, c'est un peu, c'est une période unique, voilà, dans l'histoire de l'humanité qu'on connaît depuis quelques siècles. Mais une fois qu'on sera sorti de là, il va falloir vraiment réfléchir à où est-ce qu'on va pour la suite, quoi. Et ça, si tu peux trouver une réponse à cette question-là, je pense que ça aide ensuite à structurer tout le reste de ta vie, quoi.
Trop bien. Effectivement, cette question du pourquoi, sous toutes ses formes et toutes ses facettes, je crois que c'est ma question préférée de la vie à me poser en toutes circonstances.
Ma question préférée de la vie.
Encore merci.
C'est une belle image, mais effectivement, le pourquoi, on y revient toujours, mais le pourquoi, comme la valeur, comme tout le reste, c'est hyper galvaudé, on sait plus ce que ça veut dire, alors que c'est un concept qui est très fort à la base.
C'est clair. Où est-ce que je peux envoyer les gens qui veulent échanger avec toi, en savoir plus, te suivre, parler de résistance écologique? Je les envoie où?
Alors, la priorité, ce serait la newsletter, parce que j'envoie un email chaque lundi à plus de 500 personnes maintenant. Je suis très très content de ça. Des fois, j'ai encore du mal à réaliser, mais je me dis, quand j'appuie sur le bouton envoyer de MailChimp, il y a quand même plus de 500 personnes qui reçoivent ce mail. Donc, j'ai pas intérêt à écrire n'importe quoi. Le pire, c'est quand je relis mon contenu et que je vois que j'ai oublié un mot dans la première phrase. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, la newsletter, ça synthétise vraiment tout ce que je fais, toutes les vidéos que je produis, tous les articles, tous les événements. Si je suis passé dans un podcast, par exemple, c'est là que je vais communiquer dessus. Et voilà, je voudrais faire une grosse annonce, hein. Je pense que Vous avez compris qu'il
s'autorise à le faire.
On a discuté un peu. Il se trame quelque chose. Je vais lancer en fait ma première formation parce que j'ai envie d'aller plus loin, d'apporter plus de valeur aux personnes qui me suivent. Je discute avec beaucoup de freelance, avec beaucoup de personnes du content marketing, mais surtout avec beaucoup de freelance. Et ce que je vois, c'est que la création de contenu, ça a l'air d'être un sujet qui bloque beaucoup d'entre nous. Et plutôt que de simplement dire « créer du contenu, vous allez voir, c'est génial, ça va vous apporter des nouveaux clients », j'ai envie d'aller plus loin et d'expliquer comment est-ce que j'ai fait en fait, comment je suis passé d'un freelance des plateformes à un freelance plus ou moins quand même reconnu, toujours à mon humble échelle, hein, mais aujourd'hui je reçois quand même beaucoup de demandes entrantes et j'ai pas prospecté depuis l'été 2019 en fait. Donc je me dis que si ça a marché pour moi, ça, et je sais aussi que ça a marché pour plein d'autres freelances, parce que voilà, t'en connais, j'en connais, ils sont passés sur le podcast aussi. Le contenu, c'est un peu, pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de vivre correctement son activité. Il y a des personnes qui adorent la prospection, hein, mais soyons francs, la plupart d'entre nous n'avons pas forcément beaucoup d'affinité avec ça. Donc voilà, je lance cette formation, ça sort le, c'est déjà sorti quand ce podcast sort, et du coup le but c'est vraiment de, c'est comment ?
Sorti. Je disais on est dans une inception.
Exactement.
C'est sorti déjà.
Donc il y a plus qu'à aller jeter un œil. Si je peux t'accompagner là-dessus, formation 100% en ligne, n'hésite pas, ce serait avec plaisir. Et puis voilà, comme tu dirais Thomas, on avance ensemble, n'est-ce pas ?
On avance. Merveilleux. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je suis très content de cette discussion et à très, très bientôt sur le podcast.
Avec plaisir. C'était également un beau moment. Et du coup, je te dis à très bientôt.
Bye. Ciao, ciao.
Salut.
Alors, comme cet épisode a été plutôt long, je vais pas m'étendre pendant trop longtemps pour le conclure. Donc, je me contenterai de te remercier une fois de plus pour ton écoute fidèle et ton attention toutes les semaines, ça me touche vraiment beaucoup et je suis ravi que ce podcast apporte autant. Et aussi pour t'inviter à nous rejoindre, moi et tous les freelances qui sont inscrits et qui me suivent chaque semaine dans la newsletter, ma newsletter personnelle, sur le lien dans la description ou sur mon site thomasburbidge.com/newsletter, pour que tu puisses continuer avec moi et tous les freelances qui sont inscrits à te poser des questions puissantes et profondes sur ton activité et ta vie de freelance. Et dans le tout premier mail, tu trouveras d'ailleurs des cadeaux pour t'aider à avancer sur le chemin. Et d'ici là, je te dis à très vite et à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.